Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Populiste contre progressiste, c'est le match qui se met en place à quelques mois maintenant des élections européennes. C'est ce clivage que le président français Emmanuel Macron met en avant depuis l'été dernier et c'est ce qu'il a encore redit hier lors de son déplacement en Belgique. Il avait même dit qu'il était leur principal adversaire lorsque le Premier ministre hongrois Viktor Orban l'avait désigné comme ennemi et chef de file d'une Europe tournant le dos au peuple. Bref, l'opposition entre progressistes et populistes structure le débat européen et français. C'est à se demander s'il y a encore un espace politique entre les deux, et c'est d'ailleurs la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Bruno Cotterès, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue, chercheur au CNRS et au CEVIPOF, le Centre de Recherche Politique de Sciences Po, et enseignant à Sciences Po. Et Marc-Olivier Padis, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes directeur des études de Terra Nova, un cercle de réflexion qui se présente comme progressiste sur son site internet. On verra si c'est le même progressisme que celui du président. Mais Terra Nova a plutôt la réputation d'être proche de la gauche de gouvernement. Progressisme contre populisme. Est-ce que ce n'est pas un petit peu simplificateur, Marc-Olivier Padis ?
Je dirais que c'est une bonne entrée en matière, mais qui ne suffit pas à faire un programme pour une campagne électorale. C'est une bonne entrée en matière parce que quand même, pour que les électeurs comprennent l'enjeu d'une élection, il faut dramatiser un peu cet enjeu. Il faut expliquer pourquoi toutes les élections ont un enjeu, mais les électeurs ne comprennent pas toujours quel est l'enjeu de l'élection. Donc là, au moins, Emmanuel Macron trace un projet, un programme. Et c'est vrai qu'on observe en Europe une vague de fond de mouvements populistes et même de régimes populistes. On pense en particulier à la Hongrie et à la Pologne, qui posent des problèmes pour la construction européenne et pour la coopération entre les États en Europe.
Ça vous paraît un peu simplificateur ou ça pose bien les enjeux pour vous, Bruno Cotterès ?
Je dirais que ça pose une partie des enjeux, mais que c'est sans aucun doute un peu simplificateur et surtout que ça ne permet pas de comprendre toute la complexité qui est devenue celle du rapport des citoyens européens vis-à-vis de l'Union européenne. Le débat entre le progressisme et le nationalisme, le populisme, le progressisme, le souverainisme, l'intégrationnisme, il existe depuis très longtemps. En fait, dans l'histoire de la construction européenne, en France, il s'était particulièrement bien manifesté au moment de la ratification du traité de Maastricht, au fond, où le grand débat était la souveraineté nationale contre l'intégration. C'est le moment où les Français vont découvrir le mot de subsidiarité, qui était un mot très important à ce moment-là. Et puis, les choses se sont complexifiées dans les 10-20 ans qui ont suivi la ratification du traité de Maastricht. Et si l'on fait si on tisse un fil qui va du référendum sur le traité de Maastricht au référendum de 2005 sur la Constitution européenne, on voit toute la complexification de ce rapport des Européens à l'Europe. Donc, yes, il y a du débat entre le progressisme, le progrès et le populisme, ça existe bien, mais ça ne couvre pas l'ensemble des problèmes qui se posent à propos de l'Europe et de ses citoyens.
J'ouvre rapidement une petite parenthèse. Sans manquer de respect à personne, on n'invente que rarement des choses révolutionnaires en politique et en communication politique, même si cela arrive. Le coût du progressisme, si vous me permettez l'expression, il n'est pas nouveau. On pense à François Mitterrand aux forces du progrès au tournant des années 90. Non, est-ce que c'est comparable pour vous, Marc-Olivier Padis ?
Ce recours au terme progressisme, pourquoi ce terme fédère-t-il aujourd'hui je crois que pourquoi est-ce que ce terme fédère autant ? Je crois que c'est le résultat d'un besoin de reconstruction intellectuelle à gauche. Et donc, les termes valent ce qu'ils valent. Tout le monde peut se retrouver plus ou moins. Enfin, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans le progressisme, mais on sent que, disons, la gauche qui dominait en Europe jusqu'à présent, elle était plutôt social-démocrate. Le groupe de la gauche socialiste au Parlement européen s'appelle plutôt social-démocrate. En France, social-démocratie, ça a jamais voulu dire grand-chose. On a plus ou moins des institutions social-démocrates au sens des systèmes de solidarité, mais il n'y a pas de parti social-démocrate. Et donc, moi, je m'arrête pas forcément au terme. L'idée, c'est quand même que le populisme n'est pas C'est pas la même chose que le souverainisme ou le nationalisme. Le populisme, c'est la revendication d'un monopole de la représentation du peuple. Ça veut dire de dire j'incarne à moi seul l'ensemble du peuple. C'est ce que veut dire Orban. Il n'y a plus d'opposition, il y a une seule voix qui parle, et toute l'opposition n'est plus un adversaire, c'est vraiment un ennemi, c'est l'ennemi du peuple. Mmh. Et donc, on peut lui faire subir toutes sortes de traitements, et donc l'utilisation de l'Europe dans ce contexte-là, ça sert à agiter effectivement un bouc émissaire qui vient menacer cette identité qui est constituée comme homogène. Donc la question du populisme, elle est vraiment bien posée par rapport à la question européenne.
Bruno Cotterêts, vous vouliez rebondir.
Alors, c'est certain que populisme et nationalisme, s'ils sont très souvent associés, sont deux phénomènes indépendants quand même, deux phénomènes différents. Mais je reprenais les mots du président Macron qui a parlé même récemment de nationalistes belliqueux, pour dramatiser le débat entre des termes, se situer vraiment dans des termes de débat extrêmement, extrêmement binaires et extrêmement dramatisants. Donc il est incontestable que le débat ou le combat, même d'une certaine manière, entre ces deux manières de se représenter le monde existe non seulement entre les pays européens, au sein des pays européens, ça c'est absolument, je crois que c'est une réalité sociologique, politique qui existe vraiment. Mais là où je voulais dire que ça ne recouvrait pas totalement l'ensemble des préoccupations, l'ensemble du spectre, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas vraiment si on met de côté, bien sûr, le Brexit, et encore, on voit que le Brexit, c'est une histoire encore très compliquée, mais finalement, c'est pas vraiment le problème aujourd'hui pour de très nombreux Européens de savoir s'il faut sortir de l'Union européenne. Le problème est que pour de très nombreux Européens, l'Europe est une réalité qui s'impose, qu'on ne remet pas en cause fondamentalement, mais le débat s'est déplacé sur les modalités de l'intégration européenne, c'est-à-dire...
Ça veut dire qu'on veut la changer, l'Europe,
c'est... Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, une Europe intégrée? Est-ce que c'est une Europe qui redistribue? Est-ce que c'est une Europe qui est au fond à l'origine de politiques publiques transnationales européennes? Dans quel domaine, si c'est le cas? Et aujourd'hui, le débat, le conflit d'interprétation sur la question de l'Europe, il est beaucoup plus, me semble-t-il, dans de très nombreux pays, sur l'Europe au profit de qui, pourquoi faire, avec quelles orientations de politiques publiques, beaucoup plus que le combat entre il faut sauver l'Europe ou l'Europe est sur le point de s'effondrer. Je ne crois pas que l'Union européenne soit sur le point de s'effondrer.
Marc-Olivier Padis, vous vouliez rebondir là-dessus.
Oui, on voit deux mouvements en même temps, c'est très intéressant. C'est-à-dire que on voit une montée de discours de contestation contre Bruxelles, les décisions imposées par en haut, le fonctionnement de l'Union européenne.
Bruxelles, on le rappelle, ce sont les 28 chefs d'État et de gouvernement.
Hein. Voilà, ou les institutions, la Commission européenne. C'est une sorte de raccourci, de résumé pour dire l'Europe en tant que telle. Mais on n'a jamais eu aujourd'hui dans les enquêtes d'opinion, mais Bruno Cotterêts suit ça beaucoup plus que moi, un niveau d'adhésion à l'Europe aussi fort depuis des années et des années. C'est-à-dire que maintenant, si on demande aux gens, et c'est un effet du Brexit, c'est-à-dire le départ des Britanniques et les difficultés dans lesquelles sont les Britanniques, ont créé une prise de conscience. Si on demande aux gens, est-ce que vous pensez que votre pays a profité de l'Union européenne, on a des taux très très importants de gens qui disent oui. Et donc, le cas britannique est très particulier, parce que les Britanniques ont dit, nous on s'en sortira mieux tout seul, take back control. On va gérer tout seul, on fera mieux. Bon, on verra bien. Pour le moment, ça n'a pas l'air d'être ça tout à fait. Mais quand on voit la contestation des Italiens, par exemple, vis-à-vis de l'Europe, les Italiens disent le contraire. Eux, ils disent, vous avez manqué de solidarité vis-à-vis de nous. Donc, ils demandent
notamment sur la question migratoire.
Ils ne demandent pas plus de souveraineté. Ils disent, non, mais vous ne nous avez pas aidés au moment où on était en difficulté. Et maintenant, il faut qu'on trouve des manières de fonctionner qui soient plus solidaires.
Bruno Cotterêts, dans vos études, l'Europe n'est pas contestée, c'est son fonctionnement. C'est ce que vous disiez, en fait.
Oui, j'apporterai deux nuances à ce qu'on vient de dire. La première nuance, c'est que il y a eu une période où les opinions publiques positives vis-à-vis de l'Europe étaient à un niveau beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui. En 1991 et 92, le pourcentage d'Européens qui disent que l'appartenance de leur pays à l'Union européenne est une bonne chose est à en gros 69 ou 70%. Aujourd'hui, il est à un peu plus de 50%. Donc, il y a eu un moment donné où c'était beaucoup plus élevé. Par ailleurs, la deuxième nuance que j'apporterai, c'est que lorsqu'on mesure la manière dont les Européens perçoivent l'Europe, c'est comme un millefeuille avec différentes couches. Il y a une couche qui est le fond du millefeuille, la plus résistante. C'est effectivement le sentiment qu'avec l'Europe, on est mieux qu'avant, et notamment que nous avons gagné la démocratie stabilisée sur tout le continent européen, la prospérité, la paix.
70 ans de paix,
voilà,
oui.
C'est la couche résistante du millefeuille. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure en disant qu'au fond, peu de monde remet fondamentalement en cause cette couche fondamentale du millefeuille, cette couche la plus résistante. Mais après, il y a les autres couches du millefeuille. Et là, quand on regarde les autres couches du millefeuille, qui est, mais une fois qu'on a le principe, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'il faut avoir ou pas une monnaie unique. On voit que tout le monde, tous les pays européens ne sont pas dans la zone euro. Est-ce que ça veut dire qu'on soit tous ensemble dans une, avec une armée commune? C'est un thème qui est aujourd'hui très, très porté par le président français. Tout le monde ne va pas être d'accord sur cette idée en Europe. Est-ce qu'il faut élargir davantage l'Europe? On pourrait dire que dans un souci de stabilité géopolitique, il faudrait intégrer davantage de pays, qu'on soit plus nombreux, de manière à former une sorte de quasi-empire européen qui couvre vraiment tout le continent et sa réalité physique de continent européen. Et là, on voit qu'à nouveau, on n'est pas tous d'accord sur cette question. Donc si on est d'accord à peu près de manière assez majoritaire sur effectivement l'idée que le grand principe, la grande idée européenne, effectivement, n'est pas fondamentalement remise en cause et qu'elle est assez soutenue, sur le contenu que l'on met derrière ça, par contre, il y a des désaccords.
Et c'est là, peut-être, qu'apparaissent ou réapparaissent les autres clivages. Où est-ce qu'ils en sont, ces clivages? Le clivage gauche-droite, par exemple, Marc-Olivier Padis, c'est toujours valable aujourd'hui au Parlement européen, dans l'Europe en général?
Le Parlement européen, il a fonctionné sur un système simple pendant très longtemps, c'est qu'il y avait un accord de fonctionnement entre la droite conservatrice, le Parti populaire européen, et la gauche social-démocrate, et les deux ensemble faisaient tourner le Parlement européen. Dans le prochain Parlement, probablement les deux ensemble n'auront pas la majorité, et donc il faudra qu'ils trouvent un accord, soit avec les libéraux, soit avec les verts, soit avec les deux, pour former une majorité. Mais ça fera un bloc très compact et très très solide. Maintenant, la France là-dedans, elle trouve pas tellement sa place, et en particulier Emmanuel Macron, il a pas sa place ni dans la droite conservatrice du PPE, ni dans chez les sociodémocrates, et ces deux groupes sont en déclin. Donc lui, il veut bouleverser les règles du jeu. Et de son point de vue de calcul politique, il a raison. Il a intérêt à trouver son propre espace, surtout que dans un système de grande coalition finalement qu'il va y avoir au Parlement européen, un groupe libéral centriste, par exemple, qui sera un groupe pivot, peut avoir une force d'influence très très forte. Et donc c'est logique d'un point de vue de stratégie de campagne électorale de miser sur le fait que ce jeu va être bouleversé.
L'objectif, Bruno Cotterêts, c'est réellement de refaire au Parlement européen le coup de 2017 en France et de renverser carrément la table, ou c'est plus simplement, comme le disait Marc-Olivier Padis, de faire son entrée au Parlement pour le macronisme et d'y exister?
Je pense que le premier objectif était sans doute celui qui était voulu initialement. On voit que cet objectif ne sera sans doute pas atteint parce que le président Macron en a appelé par exemple à une vaste mobilisation de tous les citoyens, de toutes les opinions, avec la question des débats sur la question de l'Europe dans tous les pays membres de l'Union européenne. D'abord, tout le monde n'a pas organisé ces débats. Ces débats ont été suivis sans aucun doute, mais ils ont été suivis par des gens qui étaient assez convaincus la plupart du temps. Les témoignages qui sont revenus sur l'organisation de ces débats montrent qu'on avait quand même des gens à fort niveau d'éducation, très convaincus de la question européenne. Donc c'est sans doute beaucoup plus le deuxième objectif pour Emmanuel Macron, qui est effectivement celui d'installer dans le paysage de la vie politique européenne une force libérale centriste qui soit susceptible de casser effectivement ce jeu de répartition des rôles bien compris entre les sociodémocrates et la droite européenne. Oui. Alors sur la question du gauche-droite par rapport à la question de l'Europe, c'est une question qui est relativement centrale mais qui est un peu compliquée. Les deux s'articulent. Si on prend le cas de la France, on voit que dans le cas de la France, effectivement, il y a un arc de forces politiques qui sont très globalement favorables à la question de l'Europe sur son principe, qui va du centre-gauche au centre-droit, en passant par le centre et l'hypercentre, si on veut, où on est très largement d'accord sur l'idée que la France est dans l'Europe et qu'il n'est pas question ni qu'elle en sorte, ni qu'elle en soit un acteur mineur, mais qu'au contraire partage très fortement l'idée que l'avenir de la France, c'est un avenir européen. Et ça reprend d'ailleurs une célèbre phrase de François Mitterrand qui disait « La France est ma patrie, l'Europe est notre avenir ». Par contre, il y a une deuxième dimension, qui est cette dimension dont je parlais, qui est la dimension de quel contenu on met derrière la grande idée générale. Et quand on regarde les propositions des forces politiques sur quel contenu on met sur ce que veut dire intégrer l'Europe, là on retrouve des dimensions gauche-droite avec des forces politiques qui sont plutôt favorables à une Europe qui contrôle ses frontières, qui parle fortement sur la question des migrations, et puis d'autres forces politiques qui vont proposer l'un un salaire minimum européen, l'autre des nouveaux droits sociaux dans beaucoup de pays européens. Et donc on voit que ça, ce sont des thématiques qui sont quand même assez labellisées gauche-droite. Droite.
Que fait la gauche de gouvernement, que peut faire la gauche de gouvernement pour tenter de se sortir de cette configuration populiste contre progressiste qui pourrait pratiquement l'achever, en fait, au moins en France, Marc-Olivier Padis? Comment exister?
Je pense que un des grands sujets, c'est d'arriver à clarifier une position sur l'objectif de l'Europe sociale ou pas. C'est-à-dire que parce que ça peut sembler une bonne idée de dire il faut que l'Europe fasse plus de social, parce que sinon l'Europe c'est juste la discipline budgétaire et donc ça passe pas, c'est un facteur de division par rapport à l'opinion. Et en même temps, la solidarité, elle se vit plutôt à l'échelle nationale, parce que la solidarité et le social, c'est de la redistribution, et pour redistribuer il faut quand même
c'est subsidiaire, si je peux dire ça.
Alors là, justement, la subsidiarité, elle marche plutôt bien. Ouais. Ce qu'on a mis en commun entre Européens, c'est 1% de notre richesse. Ce qu'on met en commun en France, ce qu'on socialise comme création de richesse, c'est la moitié de notre richesse, c'est 50%. Donc l'échelle, c'est hors de proportion. 1% pour l'Europe, 50% en France, pour tout compris. Hein. Donc on voit bien qu'il n'y a pas photo. Et donc je pense qu'il ne faut pas trop en appeler facilement à une Europe sociale, une Europe qui protège le social, parce qu'en même temps, on est attaché à un modèle social qui suppose quand même de la proximité.
C'est quelque chose qu'on entend depuis longtemps, hein, l'Europe sociale, ça aussi, Bruno
oui.
Cotterêts.
Oui, oui.
Ça ne s'est jamais vraiment concrétisé.
L'Europe qui protège, l'Europe sociale est un élément de langage auquel on s'est beaucoup habitué. C'est à même se demander si les citoyens peuvent écouter ce langage, tellement il leur a été proposé. Effectivement, je pense que l'une des difficultés de développement et d'intégration de l'Europe, c'est que l'Europe, par rapport à d'autres expériences historiques, si on la compare aux États-Unis d'Amérique, la particularité de l'Europe, c'est que la couche d'intégration européenne est venue se poser des siècles après la construction nationale. Il se trouve que dans certains pays européens, et je pense notamment la France en est un exemple très 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 parlant, la question du socle social est un élément tout à fait fondamental de notre modèle national. C'est-à-dire qu'en France, dès qu'on parle de la question de la protection sociale, de l'État protecteur, on parle en même temps de notre, entre guillemets, identité française. Et beaucoup de Français vont d'ailleurs très souvent dire que ce qui les distingue du reste du monde, c'est un sentiment d'égalité. Et donc on voit que la difficulté, hein, ce que soulignait Marc-Olivier Padis à l'instant, la difficulté, c'est qu'effectivement, en appeler à l'Europe sociale peut aussi rassurer, mais ça peut aussi soulever des inquiétudes, qui est de dire, mais alors, si l'Europe devait s'occuper du social, de la sécurité sociale, de la protection sociale, est-ce qu'on va vers un modèle, entre guillemets, médian, qui serait celui d'un État moins protecteur? Ou est-ce qu'on va exporter, d'une certaine manière, le modèle français dans d'autres pays européens? Et on voit que cette contradiction est extrêmement forte. Il y a des pays où l'Europe peut tout à fait être vécue comme protégeant mieux, et d'autres où ça va être le contraire, menaçant la protection sociale.
Merci Bruno Cotterêts, merci également à vous Marc-Olivier Padis d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Déborah Lepage à la coordination, Gérard Perrault à la documentation et à la réalisation, aujourd'hui Valentin Vaner. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio Rubrique Magazine. Prochain débat vendredi, même heure, même endroit. Demain, ce sera une émission spéciale où vous pourrez écouter les reportages radio en lice pour le prix du journalisme des médias francophones publics. Bonjour chez vous.